Éric Camus, procureur de la République à Narbonne, on va revenir sur un certain nombre de questions que se posent, j'imagine, beaucoup de gens, le commun des mortels, plus ou moins. Vous avez évoqué un certain nombre de domaines précis. Est-ce qu'il y a, une sorte d'actualité judiciaire, c'est-à-dire des affaires beaucoup plus fréquentes? On peut avoir cette impression, par exemple, en matière de violence conjugale, est-ce qu'il y en a davantage? De trafic de drogue, est-ce qu'il y en a davantage? Quel est votre ressenti, vous, de procureur?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur de la République a pour mission de définir une politique pénale. Politique pénale, c'est-à-dire des infractions, des contentieux, des phénomènes criminels sur lesquels il est essentiel d'être extrêmement attentif et de porter une action volontariste au regard du constat que l'on peut faire sur un ressort. Et c'est vrai qu'en ce qui concerne Narbonne, le constat qui avait été fait, comme d'ailleurs le constat que font tous les procureurs de France sur leur ressort, c'est les problématiques de violence conjugale, c'est le trafic de stupéfiants, c'est tout ce qui concerne la protection des acteurs publics sous les directives qui nous ont été adressées par le garde des Sceaux en la matière, nous sommes amenés à mettre en place des actions en lien avec les services de police et de gendarmerie qui sont ceux qui ont la charge de recueillir la manifestation de la vérité après avoir pris les plaintes, fait les constats d'infraction et surtout interpellé les personnes mises en cause. Et de ce point de vue-là, lors de mon arrivée il y a 2 ans et demi, j'ai pris attache avec le commissaire et le commandant de la compagnie de gendarmerie pour tout simplement leur faire part de l'attention que je portais sur ces problématiques et leur proposer de nouvelles méthodes de travail. Alors, ce sont des méthodes de travail que j'avais expérimentées sur mon ancien poste de procureur lorsque je me trouvais dans l'Allier, lorsque je dirigeais la division criminelle à Nice, et qui reposent tout simplement sur une application du code de procédure pénale, parce que nous ne faisons rien d'autre que d'appliquer la loi, mais dans une dynamique beaucoup plus prospective, plus rapide, avec de nouveaux process d'action. Cela a réclamé de la part des enquêteurs une mise à jour très forte de leurs connaissances et de leurs compétences, et surtout une nouvelle manière de travailler. Et le constat que je fais, c'est que aussi bien les services de police que les services de gendarmerie se sont immédiatement adaptés à ces méthodes qui sont très clairement techniques de travail rapides, avec une très forte densité d'enquête sur des temps très courts, tout simplement pour s'attacher à démanteler les trafics ou à interpeller le plus rapidement possible les personnes en cause.
Et alors, vous avez mentionné, je crois, les acteurs, la protection des acteurs publics. Ça veut dire quoi exactement?
Le garde des Sceaux nous a demandé d'être extrêmement attentif aux atteintes dont pouvaient faire l'objet certaines personnes publiques particulièrement exposées.
Les élus, par exemple.
Les élus, les forces de l'ordre, et les enseignants. Et c'est vrai que, en ce qui concerne cette dernière catégorie, je parle des enseignants, j'ai adressé, il y a un an et demi, plusieurs notes d'action publique au service de police et de gendarmerie, et j'avais d'ailleurs communiqué à ce sujet-là, en indiquant que j'entendais sanctuariser l'école. En d'autres termes, les personnes qui menacent, qui viennent à violenter ou en tout cas à commettre une infraction pénale à l'encontre d'un enseignant dans l'exercice de ses attributions, dès lors que la plainte est déposée, les services de police et de gendarmerie ont pour instruction de pourvoir immédiatement à la réalisation d'une enquête et surtout à l'interpellation de la personne en cause dans les 48 heures, ou en tout cas dans le délai le plus bref possible, parce que ce type de comportement est tout simplement inacceptable. Donc nous avons un travail de collaboration très fort avec le directeur académique, qui, je dois le dire, a lui aussi mis en place des remontées d'informations plus rapides, plus construites. Nous avons Internet aujourd'hui, qui permet justement d'avoir cette communication immédiate, et surtout une sensibilisation très forte des personnels enseignants en leur disant « la justice est là pour vous protéger ». Il est inenvisageable qu'un personnel enseignant soit menacé, soit pris à partie alors qu'il est là pour enseigner. L'enseignant est là pour enseigner.
Or, on a l'impression, là encore, ce sont des impressions, elles méritent peut-être d'être précisées, mais on a quand même un peu l'impression que c'est devenu relativement monnaie courante, ce genre d'affaires, et que ça passe un peu à la trappe.
Alors, le premier message qu'il faut envoyer, c'est que c'est inacceptable. Et il n'est pas envisageable qu'un enseignant puisse être agressé ou menacé. J'avais plusieurs fois indiqué dans le cadre des réunions que j'organise au mois de décembre avec l'ensemble des chefs d'établissement qu'il était essentiel de saisir la justice promptement et pour qu'il fasse le constat de la réactivité qui est la sienne. Pour 2022, ce sont 11 personnes qui ont été placées en garde à vue dans la semaine. Je pense à 3 d'entre elles immédiatement. Et qui ont été déférés au tribunal, puisque mes instructions sont, à partir du moment où une personne vient à menacer un enseignant ou à commettre un acte quel qu'il soit, elle doit être présentée à la fin de sa garde à vue pour être placée en détention provisoire si les actes sont suffisamment graves pour le justifier, ou en toute hypothèse sous contrôle judiciaire jusqu'à la date d'audience. Alors c'est vrai que j'ai fait le constat de ce que, alors que la délinquance est masculine, plus de la moitié des personnes déférées étaient des femmes, des mamans, mais qui avaient eu un comportement totalement inacceptable à l'égard de l'enseignant.
Et ça, donc, c'est assez surprenant, ça. Oui, ça, oui, oui. Ça va à l'encontre des clichés habituels.
En tout cas, c'est une réalité. C'est une réalité criminologique. Et je suis persuadé qu'il est important d'envoyer ce signal. Parce que les enseignants sont là dans l'intérêt de nos enfants. Si un problème se pose, il y a simplement un espace de discussion qui peut être ouvert avec l'enseignant ou avec sa direction. Mais la menace et le passage à l'acte, ça, c'est juste pas possible. Mmh. Et donc, ces personnes ont été placées sous contrôle judiciaire après, parfois, 48 heures de garde à vue.
Et en ce qui concerne les femmes, alors dans le cas des violences conjugales, ça on le sait, et ça c'est pas un cliché, ce sont quand même essentiellement des femmes qui sont victimes, mais pas exclusivement.
Alors pas exclusivement, mais la très très grande majorité ce sont des femmes. Et la difficulté à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui, et c'est une vraie difficulté, hein, c'est de libérer la parole. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, une personne s'est présentée au commissariat de police indiquant qu'elle avait été très gravement violentée par son mari. Les enfants étaient prêts à témoigner, tout le monde était prêt à dire. Et le lendemain, cette dame est venue voir les services d'enquête pour expliquer qu'elle entendait retirer sa plainte, qu'elle avait discuté avec l'auteur des violences et que finalement, elle n'entendait pas donner suite. Pour la petite histoire, nous avions fait mobiliser l'unité de médecine légale, l'association des deux victimes, la psychologue, pour être dans l'accompagnement de cette personne. Alors, j'entends, mais il faut aussi entendre qu'aujourd'hui, la justice a mis en place tout ce qu'elle est capable de mettre en place pour l'accompagnement et la protection des personnes. Et je peux vous assurer que nous ne comptons absolument pas nos heures pour être au plus près des populations. Et nous disposons aujourd'hui de moyens avec notamment le téléphone grave danger, avec tout le dispositif et tout le parcours que j'indiquais tout à l'heure. Nous disposons des moyens pour justement mettre en protection et être le plus réactif possible.
Eh bien, merci. On va conclure là-dessus. Éric Camus, procureur de la République. Merci pour toutes ces explications. Et alors, je le dis tout de suite, j'espère qu'on vous retrouvera régulièrement parce que, on le voit, les choses bougent, changent, j'espère dans le bon sens, et que vous mettez en place régulièrement des nouveaux partenariats, des nouveaux fonctionnements de la justice. Le prochain invité de Radio Barque sera Didier Codorniou, maire de Gruissant et premier vice-président de la région. Nous recevrons ensuite, parmi les prochains invités, Nicolas Delorgeril, qui est le président de l'association économique carcassonnaise Cœur d'Occitanie. Un peu plus tard également, la présidente du département, Hélène Sandranier. Voici quelques noms pour les prochains invités. Merci aux auditeurs de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Merci, monsieur le procureur.
Merci à vous.